9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
La littérature est composée de deux courants, traversée par deux courants, la mimétis et la fantasia. La mimétis, c'est ce travail qui consiste pour l'auteur à s'approcher de la vérité, à rendre le réel au plus près. Et la fantasia, c'est tout le contraire. C'est l'imagination au pouvoir. La fantasia, c'est le caractère débridé de ce qui sort purement et simplement de l'esprit de l'auteur. Eh bien, cette fantasia, ce pouvoir de l'imagination, il a été incarné par un personnage et par un auteur d'ailleurs, par le Don Quichotte de Cervantes, immense œuvre au tournant du XVIe et du XVIIe siècle. Tous les grands écrivains lui ont rendu hommage, bien sûr Flaubert, Dostoïevski, plus près de nous, Salman Rushdie. Les peintres également ont tous essayé, pas tous, mais beaucoup ont essayé de donner leur vision de Don Quichotte. Je pense à Goya notamment, mais aussi à Picasso, bien sûr à Daumier. Les réalisateurs de cinéma se sont beaucoup intéressés à lui. Pabst en 33 avec Charlie Appin sur la musique d'Ibert que nous entendrons tout à l'heure. Plus récemment Orson Welles, Terry Gilliam encore plus récemment. Et puis bien sûr que les musiciens ne sont pas en reste puisque Richard Strauss, Jules Massenet, beaucoup plus près de nous Jacques Brel bien sûr sur une traduction de la comédie musicale Man of La Mancha de Mitch Lee ou bien sûr Maurice Ravel se sont intéressés à ce personnage, à ce gentilhomme du centre de l'Espagne, de ce village de la Mancha, on n'est pas très loin de Tolède si vous voulez, qui, tous les matins, tous les soirs, à longueur de journée, lisait ses romans de chevalerie. Comme ses livres étaient très coûteux, nous dit Cervantes, il les a progressivement, enfin il a été obligé de vendre tous ses biens pour progressivement acquérir cette bibliothèque chevaleresque. Si bien, dit l'auteur, qu'à force de dormir peu et de lire beaucoup, il se dessécha le cerveau de manière qu'il vint à perdre l'esprit. Son imagination se remplit de tout ce qu'il avait lu dans les livres, enchantements, querelles, défis, batailles, blessures, galanteries, amours, tempêtes et extravagances impossibles, et il se fourra si bien dans la tête que tout ce magasin d'inventions rêvées était la vérité pure, qu'il n'y eut pour lui nulle autre histoire plus certaine dans le monde. Notre gentilhomme frisait la cinquantaine. C'était un homme grand et sec, maigre de visage, les cheveux poivre et sel, le nez aquilin et un peu crochu, avec de grandes moustaches noires et tombantes. Et plus tard, il nous découvrira même ses jambes très longues, maigres, toutes velues et d'une propreté douteuse. Il doit devenir chevalier lui-même, un chevalier errant. Il fourbille une vieille armure faite de briquet de broc. Et puis, un jour qu'il croise un barbier qui voyage avec un bassin de cuivre, eh bien, Don Quichotte voit immédiatement dans ce bassin le célèbre casque de Membrun, ce homme indestructible cité dans toutes sortes d'anciens romans de chevalerie et qui lui avait agité l'esprit. Et désormais, eh bien, c'est coiffé de cet ustensile qu'on le verra errer. Il a donné à son vieux cheval, un peu dégingandé, le nom de Rossinante, autant dire la première de toutes les rosses du monde. La rosse, c'était un vieux cheval autrefois, n'est-ce pas? Et puis, il se choisit lui-même un nouveau nom qui va rimer avec Lanzarote. C'est le nom espagnol de Lancelot. Bon, là, en l'occurrence, ce sera Don Quichotte. Reste à trouver, pour ce chevalier parfait, il reste à trouver une femme, évidemment, parce que, nous dit là encore Cervantes, il est aussi bien de nature et d'essence d'être amoureux que pour le ciel d'avoir des étoiles. Alors il va la choisir dans un village voisin, c'est une paysanne à laquelle il donne le nom de Dulcinea del Toboso. La voilà qui arrive, Dulcinea. Il en fait la dame de ses pensées. C'est le cas de le dire, en l'occurrence, elle représente un idéal d'une beauté sans pareille, de toute vertu. Peu importe, en fait, qu'elle existe ou pas, d'ailleurs. Sa mission sera de proclamer par le monde sa supériorité. Je la peins dans mon imagination telle que je la désire, aussi bien pour la noblesse que pour les attraits. C'est elle qui combat et qui triomphe en moi, et moi je vis et je respire en elle, et j'y puise l'être et la vie. Ce personnage qui se paie de mots offre au plus grand de tous les auteurs les moyens de nous payer de mots, de nous transporter dans un entrelacs absolument infini de termes, d'images, de phrases, de toutes les locutions possibles. Il y a une sorte de broderie infinie dans le Don Quichotte, une broderie sur du néant.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il était né en 1547, Cervantes. C'est l'année en France de la mort de François Ier. On est encore sous le règne de Charles Quint. Il va vivre une vie assez extraordinaire avant de mourir assez tard, somme toute en 1616, le 22 avril 1616, à peu près en même temps que Shakespeare. Je dis à peu près en même temps, c'est littéralement le même jour, sauf que ça n'était pas les mêmes calendriers en Angleterre et en Espagne. Donc en fait, il y a un petit décalage dans la mort de Shakespeare et dans celle de Cervantes. Il a été soldat, ce Cervantes. Il a d'ailleurs participé comme marin à la bataille de la plus grande bataille navale de l'histoire, la bataille de Lépante en 1571, et c'est là qu'il a perdu l'usage de la main gauche. Il a été très blessé. On l'appelle à partir de là le manchot de Lépante, n'est-ce pas ? Il va être vendu comme esclave, hein, prisonnier des morts pendant plusieurs années. Il fait 4 tentatives d'évasion. J'ai eu l'occasion de vous raconter la vie de Cervantes ici même. En Espagne, il va se lancer dans l'écriture, et puis plus tard, il va faire un stage en prison, si j'ose dire, à Séville. C'est sans doute là qu'est né le projet du Quichotte. En 1605, c'est la première partie qui paraît de l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, qui à l'origine est conçu, disons les choses, comme une parodie des romans de chevalerie. Vous savez, il y avait énormément de romans de chevalerie encore au milieu du XVIe siècle. Il y a des gens qui s'y plongeaient, qui y passaient leur vie. C'est le cas en France du roi Henri II, par exemple. Eh bien, c'est une parodie, c'est une gentille moquerie. C'est à la fois un hommage et en même temps quelque chose d'assez grinçant et ironique que nous donne le Don Quichotte de Cervantes, qui va devenir un très grand succès, non seulement en Espagne et dans toutes les dépendances de l'immense empire Habsbourg de l'époque, mais on peut le dire dans toute l'Europe. Et puis la deuxième partie paraîtra pas très longtemps avant la mort de Cervantes en 1615. Il y a à cette époque un changement considérable. Vous imaginez à quel point la culture, les rapports sociaux, tout ça est en train de changer, mais on garde l'idéal chevaleresque. C'est vrai que la chevalerie n'est plus qu'un souvenir à l'époque. Eh bien, le héros de Cervantes, Don Quichotte, c'est l'homme qui refuse d'une certaine manière le passage à la modernité, qui reste dans ses idées de chevalerie, qui réinvente un monde selon ses fantasmes pour échapper à la médiocrité d'une existence qu'il doit juger trop banale. Il faut dépasser la réalité prosaïque en aspirant à un idéal. Et est-ce que ça, finalement, ça n'est pas le but de toute littérature? Et est-ce qu'en transformant le plomb du réel en or du fantasme, Cervantes n'accomplit pas le sommet même du travail de l'écrivain?
It is the mission of each true man. His duty, nay, his privilege. To dream the impossible dream. To fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love your chased from afar, to try. When your arms are too weary to reach the unreachable star, this is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest.
Nous sommes plus habitués à entendre Jacques Brel, évidemment, dans cet air, mais là, c'est la version originale en anglais de L'Homme de la Mancha de Mitch Lee, et c'était Placido Domingo qui l'interprétait.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors, je vous parle beaucoup de Don Quichotte, il faudrait peut-être pas oublier Sancho Panza, bien sûr, hein. Un chevalier ne peut pas rester sans écuyer, alors il trouve qu'il y a là un paysan du village qui ferait très bien l'affaire, et il lui propose, en lui promettant de lui offrir une île, rien de moins, il lui propose de l'accompagner. Alors, autant il y en a un qui est grand, mince, maigre, sec, vous avez compris, Don Quichotte, autant Sancho lui est petit, gros, alors lui il est vraiment très terre-à-terre, c'est d'ailleurs tout l'intérêt du personnage, c'est de ramener constamment le réel dans l'imaginaire de Quichotte. Lui est monté sur un âne grison, voyez un peu les silhouettes à la Laurel et Hardy ou Astérix et Obélix, un peu, enfin c'est l'inverse d'Astérix et Obélix en l'occurrence. Alors Sancho est à la fois, si vous voulez, c'est le valet de comédie, hein. Il est naïf, lui il prend les choses au pied de la lettre, ce qui fait bien sûr beaucoup d'échanges assez drôles entre eux. Don Quichotte révèle constamment sa propension à travestir la réalité. Il sublime tout, cet homme-là. La première auberge qu'il croise, ça devient un château. Et il y a là des prostituées. Eh bien, ça devient de nobles dames, n'est-ce pas ? L'aubergiste joue le jeu. Il comprend très bien qu'il a affaire à un peu un cynoc. Il va d'ailleurs adouber Don Quichotte chevalier dans une parodie de cérémonie qui est assez extraordinaire. C'est le registre d'auberge qui sert d'épée, hein, pour l'adoubement. Bref, ça se termine mal, hein, puisque finalement, après s'être fait copieusement rosser, Don Quichotte est rapporté chez lui à dos d'âne. Et on commence autour de lui à s'inquiéter. Évidemment, ses proches se disent qu'il faudrait peut-être se soucier de son état mental. Alors, il décide de brûler tous les fameux livres, sauf ceux qui ont été sauvés par le curé qui quand même les avait tous lus, n'est-ce pas ? Et puis, ils vont sceller la bibliothèque en prétendant que c'est l'œuvre d'un enchanteur. Mais ça ne suffira pas, puisque Don Quichotte, maintenant, est trop bien parti pour s'arrêter en chemin, si je puis dire. Et le voilà reparti en quête de faits glorieux avec Sancho. Sur le chemin, nos deux amis voient d'un seul coup, vous me voyez venir, des moulins à vent, bien entendu. « Regarde, ami Sancho, » dit Don Quichotte, « voilà devant nous au moins 30 démesurés géants auxquels je pense livrer bataille et ôter la vie à tous, tant qu'ils sont. » En disant ces mots, il se recommande du profond de son cœur à sa dame Dulcinée, la priant de le secourir en un tel péril, puis, bien couvert de son écu et la lance en arrêt, il se précipite au plus grand galop de Rocinante contre le premier moulin qui se trouvait devant lui. Mais au moment où il perçait l'aile d'un grand coup de lance, le vent la chasse avec tant de furie qu'elle met la lance en pièces et qu'elle emporte après elle le cheval et le chevalier qui s'en alla rouler sur la poussière en fort mauvais état. Eh oui, on ne se bat pas impunément contre les moulins, n'est-ce pas ? Évidemment, il est convaincu que ce sont les enchanteurs qui jouent contre lui, Don Quichotte. Alors tantôt, il se bat en combat singulier, tantôt, il affronte des armées entières qu'il croit distinguer à travers un nuage de poussière. Il en reconnaît même les chefs. « Vois, Sancho, dit-il, il est couvert d'armes écartelées d'azur, de sinople, d'argent et d'or, et porte sur son écu un chat d'or en chant lyonnais avec ses quatre lettres, miou, qui forme le commencement du nom de sa dame. » Alors, il va charger, bien sûr, et il va l'enchanteur, à ce moment-là, transforme cette armée en troupeau de moutons, évidemment. Inutile de vous dire que les bergers sont pas très contents de voir massacrer leurs agneaux et leurs brebis. Ils vont jeter des pierres au pauvre Don Quichotte, qui, d'ailleurs, perd des dents à chacune de ses aventures, et son allure devient tellement pitoyable que Sancho va lui trouver un nom. Il devient le chevalier de la triste figure. Oui. Don Quichotte réalise ensuite que tout bon chevalier se doit de faire une crise de folie. Ben oui, vous voyez, dans le Roland furieux de l'Arioste, par exemple, ou dans Amadis de Gaulle, le Amadis ou Roland font des crises de folie. Ben, il va en faire autant. Le mérite est de perdre le jugement sans sujet et de faire dire à madame s'il fait de telles choses à froid, que ferait-il donc à chaud ? À présent, ne faut-il pas que je déchire mes vêtements, que je disperse les pièces de mon armure, et que je fasse des culbutes, la tête en bas sur ces rochers, ainsi que d'autres choses de même espèce qui vont exciter son admiration ? Sancho n'en est pas du tout convaincu, lui, hein. Il essaie même de le dissuader, mais Don Quichotte se met tout nu et le voilà parti dans sa crise de folie. Dans son roman, Cervantes va insérer, c'est peut-être ce qu'il y a de plus incroyable et miraculeux, il insère des intrigues annexes, notamment les histoires d'amour croisé de deux couples qui finalement vont se résoudre dans une réconciliation générale dans l'auberge qu'on avait vue dès les premières pages. Hein. Ce qui, entre parenthèses, est très intéressant pour nous parce que ça nous donne un témoignage de la vie dans la Castille de l'époque. On croise là des amis de Don Quichotte qui, déguisés, tentent de le détourner de sa folie en essayant de lui faire prendre conscience qu'il serait peut-être bien de revenir à la réalité. Et Don Quichotte, finalement, est si gravement blessé que Sancho s'inquiète sincèrement et il tente d'imiter la prose de son maître. Il se met à parler de la même façon. « Ô fleur de la chevalerie !» C'est Sancho Panza qui parle. Hein. « Ô fleur de la chevalerie, qui a vu trancher d'un seul coup de bâton la carrière de tes ans si bien employés. Ô honneur de ton lignage, gloire de la Manche et même du monde entier. Ô toi, humble avec les superbes et arrogante avec les humbles, affronteur de péril, endureur d'outrage et amoureux sans objet, imitateur des bons, fléau des méchants, ennemi des pervers, enfin chevalier errant. Ce qui est tout ce qu'on peut dire. » Oui, chevalier errant, c'est pas mal. Nous finissons ainsi le premier livre du Quichotte. La chanson de la mort de Don Quichotte, de Jacques Ibert, moins connue cette chanson que celle de Ravel sur un texte de Paul Morand. C'était pour le film de Pabst en 1933 et en l'occurrence c'est José Vandamme qui interprétait cette magnifique air accompagnée par l'Orchestre National de l'Opéra de Lyon sous la direction de Kent Nagano.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que arrive un second livre dont l'ambiance va être extrêmement différente, moins spontanée, débridée, moins extravagante, si vous voulez, que l'ambiance du premier livre, plus tragique et qui va nous montrer un homme conscient de ses propres illusions et divagations, parce que ce qui est fort, c'est la mise en abîme de Cervantes qui nous explique que Don Quichotte, entre-temps, a lu le premier livre et que donc il sait que sa vie est un roman. Vous imaginez comme c'est fort et comme c'est puissant, c'est incroyable d'arriver à ce degré. C'est très baroque, finalement, hein, d'arriver à ces degrés de conscience dans la conscience, ou dans l'inconscience, pour être plus juste. Alors, il faudrait raconter là encore quelques épisodes qui d'ailleurs prennent une autre dimension. Par exemple, celui du spectacle de marionnettiste de Maître Pierre, qui est le marionnettiste. Hein. L'histoire relate les aventures d'un chevalier de l'époque carolingienne aux prises avec les morts. Et Don Quichotte va observer ce spectacle, mais une fois de plus, il va confondre réalité et fiction. Et il va intervenir dans le spectacle. « Il dégaina son épée, raconte Cervantes, d'un saut s'approcha du théâtre et, avec une fureur inouïe, se mit à faire pleuvoir des coups d'estoc et de taille sur l'armée mauresque des marionnettes, renversant les uns pour fendant les autres, emportant la jambe de celui-là et la tête de celui-ci. Il déchargea, entre autres, un fendant du haut en bas si formidable que, si Maître Pierre ne se fût baissé, jeté à terre et blotti sous les planches, il lui fendait la tête en deux comme s'il eût été de pâte à massepain. » C'est fantastique, c'est une écriture absolument incroyable qui est à la fois dans la fantaisie pure et dans l'extrême vérisme. C'est tout à fait incroyable tout ça. Alors, il y aurait mille histoires à vous raconter encore. Par exemple, Don Quichotte et Sancho Panza vont rencontrer un duc et sa femme, puissant duc, qui veulent s'amuser un peu, qu'ils l'accueillent en grande pompe dans leur château. Alors évidemment que le chevalier est émerveillé, et malheur à qui se moque de lui. « Chevalier, je suis, et chevalier, je mourrai, s'il te plaît au Très-Haut, s'il le plaît au Très-Haut. Poussé par mon étoile, je marche dans les trois sentiers de la chevalerie errante, méprisant pour exercer cette profession la fortune, mais non point l'honneur. J'ai vengé des injures, redressé des torts, châtillé des insolences, vaincu des géants, affronté des monstres et des fantômes. Mes intentions sont toujours dirigées à bonne fin, c'est-à-dire à faire du bien à tous, à ne faire du mal à personne. » Et ce qu'il y a d'étonnant dans l'affaire, c'est qu'on est à mesure qu'avance la tragédie, parce que ça en devient une, on ne sait plus si l'on doit rire ou pleurer, si l'on doit se moquer du pauvre Don Quichotte ou finir par l'admirer dans l'essence même des grands sentiments qu'il présente. Alors, il y a encore bien des aventures que je n'ai pas le temps de vous raconter, mais quand il rentre chez lui, Don Quichotte s'y trouve abattu par une espèce de dépression. C'est le retour au réel, si vous voulez. Il voue aux gémonies tous les livres de chevalerie qui n'ont pas du tout tenu leurs promesses. Don Quichotte est dans la totale désillusion. Il n'a plus d'idéal. Et n'ayant plus d'idéal, que voulez-vous ? Il n'a plus de raison de vivre. Et Cervantes choisit de clore ainsi son roman sur une note à la fois mélancolique et résignée, et qui contraste évidemment d'une façon criante avec le reste de l'œuvre. « Hélas, hélas !» répondit Sancho en sanglotant. « Ne mourez pas, mon bon seigneur, mais suivez mon conseil et vivez encore des années. » Car la plus grande folie que puisse faire un homme en cette vie, c'est de se laisser mourir tout bonnement sans que personne le tue, ni sous d'autres coups que ceux de la tristesse. Allons, ne faites point le paresseux, levez-vous de ce lit et gagnons les champs, vêtus en berger, comme nous en sommes convenus. Peut-être derrière quelques buissons trouverons-nous Madame Dulcinée, désenchantée, à nous ravir de joie. »
Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Julia Lebrun de nous avoir fait, de nous avoir permis ces incursions dans l'œuvre majeure. Et voici Christian Morin. Bonjour Christian. Il n'a pas
Bonjour,
de
jour,
il n'est pas sur une rosse.
Non, mais en vous écoutant, je pensais quand même, issu du texte de Cervantes et de l'aventure de Don Quichotte, cette expression, elle a fait long feu, se battre contre des moulins.
Eh oui, bien
c'est
sûr.
Extraordinaire, ouais. D'ailleurs. Alors, un homme qui s'est battu pour un équilibre de l'Europe, c'est la famille Metternich qui va arriver à
oui,
Paris
Metternich, cet après-midi. Absolument.
Oui, oui. Et il était,
c'était surtout pour la puissance impériale de l'Autriche, d'ailleurs.
Oui, évidemment. Mais enfin, j'ai lu aussi qu'il était assez contre la liberté de la presse.
Oui, totalement.
Donc, vous nous raconterez tout cela dès 14h. Alors, je vous souhaite un bon week-end, parce qu'il faut vous remettre quand même de ces deux premières semaines. De rentrée, et puis dès lundi, vous retrouverez Franck à 8h05 le matin et à 9h pour Franck Ferrand Raconte. Merci beaucoup, Franck.
Bon week-end à tous. Et à vous.